constater que j'ai fait une coupure de trop, on aurait dû laisser le tout début de l'histoire qui dit que c'est à cause de la violence sur terre que Dieu prend cette décision de faire pleuvoir sur terre et de recommencer avec cette famille de Noé, le seul juste qu'il a trouvé. Le texte dit que, oui, cette création que Dieu avait voulu belle avec les hommes tourne mal à cause de la méchanceté, dit le texte, des hommes, leur violence surtout. Et que Dieu ne supporte plus cette violence et qu'il a envie, je dirais presque comme un enfant qui a fait quelque chose et qui dit « mais va recommencer ». Il veut recommencer sa création. Je pense que nous sommes nombreux à connaître cette histoire, d'avoir fait des dessins, n'est-ce pas, sur cette histoire de l'arche de Noé à l'école biblique, pour ceux qui ont fait de l'école biblique. Avec aussi la colombe au moment qui est envoyée, qui revient avec une branche d'olivier. Voilà, c'est une belle histoire pittoresque et en même temps effrayante aussi. Effrayante aussi parce que c'est vrai, dans un premier temps, c'est très clair, Dieu décide de noyer toute l'humanité à cause du péché généralisé sur terre. Comme si Dieu ne supporte plus ce qu'il va faire les hommes sur terre. Comme si Dieu a ras-le-bol des hommes. Dieu qui perd patience. Apparemment, cela peut arriver aussi, en tout cas dans ce récit. Malgré sa bonté infinie pour les hommes, mais ces hommes qui font tellement de choses qu'ils perdent patience, Dieu en colère. Il faut se mettre un peu à la place de Dieu, de supporter tout ce qu'il voit depuis longtemps. Est-ce que Dieu pourra perdre à nouveau patience avec nous, cette humanité? Dieu merci, cela est impossible pour deux raisons. D'abord, qu'est-ce que nous en avons? Parce que Dieu est Dieu. Mais je crois d'abord, Dieu a trouvé à nouveau un seul juste sur terre, non pas Noé, mais Jésus. Juste avec lequel, à cause de ce Jésus, Dieu s'est réconcilié une fois pour toutes avec les hommes. Ça, c'est au cœur de notre foi chrétienne. Et je pense que Noé, qui est le seul juste que Dieu trouve au milieu de cette humanité violente, que Noé est la première préfiguration du Christ dans la Bible. L'homme nouveau. Deuxièmement, je le trouve dans le récit, la raison pourquoi Dieu ne fera plus jamais ça, parce que vous l'avez bien entendu, Dieu s'engage que cela n'arrivera plus jamais. Le texte dit que Dieu fait alliance avec les hommes et avec tous les êtres vivants. L'arc-en-ciel en est le signe. Et je vais revenir sur cela que Dieu fait ici, alliance avec tous les êtres vivants. Ce qu'on peut appeler l'alliance de Noé, ou la première alliance dans la Bible, je crois que c'est l'alliance presque oubliée du christianisme. On parle toujours de l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, Moïse, la première alliance avec Abraham. Non, la première alliance dans la Bible est celle-ci. Et elle est importante, aujourd'hui d'actualité. Mais avant de dire un peu plus pourquoi cette vieille histoire ici est si actuelle, et vous l'avez bien compris, quelques mots sur ce texte qu'il faut lire de manière juste d'abord. D'abord, il faut dire qu'il fait partie de cette première partie mythologique de la Bible. Voilà. Jusqu'à Abraham, qui était peut-être une première figure qui s'inscrit vraiment dans l'histoire, avec des légendes autour de lui. On a raconté ces histoires pendant des siècles avant qu'ils soient écrits. Mais avant cela, il y a ces récits où Dieu crée le monde en 7 jours, il y a le serpent qui parle, Dieu qui se promène dans un jardin, rencontre l'homme, il y a un homme qui a 900 ans, et il y a le tour de Babel qui va jusqu'au ciel, et Dieu qui descend pour bien voir comment ça se passe. C'est le chapitre 11. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, nous sommes bien dans des mythes bibliques. Et il faut l'appeler ainsi, mais il faut tout de suite aussi ajouter que le mot mythe ne fait pas dire que le texte donc n'a pas de vérité importante à nous dire, au contraire. C'est une autre forme de discours, une autre forme de récit pour nous dire, et on voit dans le premier chapitre de la Bible, que toutes les grandes questions d'où venons-nous, qui est l'homme au sein de la nature, qui est Dieu, le début de la violence, Caïn, Abel, l'origine du mal, sont abordés à travers cette forme de récit, de mythe. Les grandes questions sont abordées. Et là, Noé et son bateau, qui est donc une grande histoire, qui est très développée dans ce premier chapitre, et qui semble aussi un mythe, voilà, biblique. Bien que, j'ai dit, c'est étonnant qu'on trouve cette même mythe dans d'autres peuples au Moyen-Orient, même avant l'écriture de la Bible. Chez le Babylonien, Mésopotamien, circulait cette même mythe d'une inondation et l'humanité qui aura survécu, bien que sous d'autres formes, ça c'est clair. Comment expliquer cela? Mais des scientifiques ou des savants, dès le 19e siècle d'ailleurs, ont dit que c'est très probablement un souvenir d'une inondation réelle qui s'est produite à la fin de la fonte des glaciers. Voilà. Où, et on pense que c'était peut-être la mer Noire, qui était une plaine où vivaient des peuples, des villages, et qui s'est inondé par une brèche qui s'est créée, et la mer, avec les glaciers qui sont effondrés, et que ces populations sont noyées massivement dans cette catastrophe écologique à l'époque. Et qu'on retrouve des traces dans plusieurs textes donc très anciens, un souvenir de cela. Et ce qui est intéressant, que la Bible va reprendre cette histoire, mais l'interpréter comme jugement de Dieu sur l'humanité qui a dépassé les bornes. Voilà. Il y a une sorte de relecture biblique, mais qui termine avec une promesse, une alliance de Dieu, avec cette espérance que cela arrivera plus jamais. L'arc-en-ciel en aura, s'en sera le signe. On appelait ça l'alliance de Noé, pour le distinguer de l'alliance de Dieu avec Abraham et avec Moïse. Il me semble que dans ce texte, nous trouvons une grande actualité, dans cet engagement que Dieu prend envers tous les êtres. Vous avez bien entendu, hein? Tous les êtres sont évoqués dans des plus petits, des insectes jusqu'au. Et Dieu dit, je fais alliance, pas seulement avec l'être humain, mais aussi avec tout le vivant. Voilà. C'est la première grande alliance dans la Bible. Et ça nous fait réfléchir. Parce que c'est vrai que le christianisme a donné une place à l'homme dès le début, dès la Genèse 1, on va dire. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et ensuite, il y a aussi ce texte qui dit que Dieu dit à l'homme qu'il faut dominer les autres êtres, la nature, les animaux. Heureusement, il y a Genèse 2, qui est une deuxième version de la création, où l'homme est placé plus au milieu. Il est pris de la nature, on dit qu'il fait vraiment partie de la nature, placé dans le jardin, et Dieu dit, mais tu es responsable du jardin dans lequel j'étais placé. Mais le christianisme, et dès lors aussi l'Occident, a clairement valorisé l'homme comme supérieur au reste de la nature, avec aussi en partie des conséquences que cela a donné dans notre culture, je pense, et qui a dérapé. Aujourd'hui, l'homme est devenu un ennemi de la création. C'est nous qui mettons en danger la création des espèces, des forêts qui sont brûlées par des centaines de kilomètres en Brésil ou ailleurs, Indonésie, etc. Vous le savez, toutes ces choses qui nous sont de plus en plus évidentes, comme aussi le résultat de l'homme et son action insensée parfois sur la nature. Les scientifiques nous mettent en garde, nous le savons aussi. Le grand pasteur scientifique Théodore Monod, qui va sillonner les déserts en Afrique du Nord, a écrit son dernier livre, Théodore Monod, « Et si l'aventure humaine sur Terre échouait ?» Et Théodore Monod de mettre le doigt sur l'orgueil de l'homme, qui sur un plan historique et biologique doit tout à la nature, mais que devenu le grand ennemi, en quelque sorte, de la nature et ses équilibres qui ont été construits pendant de millions d'années sur Terre. Oui, il est temps de réfléchir sur tout cela aussi pour nous chrétiens, dans une relecture de la Bible, dans une relecture de refaire alliance avec le vivant, comme dit ce texte, au lieu de détruire ou déstabiliser l'environnement. Programme de conversion qui nous semble énorme pour nos sociétés, pour nos manières de vivre. Changer un système de développement qui exploite, faire un développement durable, comme on dit aujourd'hui, etc. Il y a une prise de conscience, nous le savons. Nous savons aussi la difficulté des responsables des pays de mettre en œuvre des décisions. Nous savons que M. Trump pensait que tout cela, c'est voilà, de la folie, ce qui est grave. Parce que, c'est vrai, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est en jeu. Et aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui le disent. Réjouissons qu'il y a une prise de conscience qui parfois aussi s'impose parce que cela échappe à personne, que les différentes catastrophes deviennent de plus en plus fréquentes, que les records de chaleur ou de réchauffement sont battus trop régulièrement et que cela va que continuer dans les années à venir. Il est temps de réagir, les scientifiques nous le disent. L'Église n'a été pas sans réflexion sur ces questions. J'aimerais rappeler, bien qu'en France, il semble qu'il y a peut-être eu un certain retard, je dirais, sur ces questions écologiques, je pense, je le dis un peu comme hollandais, aussi après ce que j'ai vu en Allemagne. Mais le Conseil œcuménique des Églises, qui regroupe toutes les églises mondiales, un peu du protestantisme et de l'orthodoxie, a depuis 40 ans inscrit dans leur programme, il y a trois axes, l'axe de la justice, l'axe de la paix, et de la sauvegarde de la création. Et le Conseil œcuménique soutient réellement, à partir de Genève, des centaines de projets qui vont dans ce sens de prise de conscience. Le pape François, qui a pris le nom de François d'Assise, il nous a donné un encyclique sur les questions écologiques, premier pape qu'il a fait, et un texte que je peux recommander, remarquable à lire, où on voit que là, il y a aussi une réflexion des églises et de l'Église catholique sur ces questions. Ici, dans nos locaux, en septembre, est créée, fondée l'Église verte sous le signe œcuménique avec des églises protestantes, orthodoxes, catholiques de France. l'Église verte qui veut œuvrer dans la prise de conscience dans nos églises sur toutes ces questions. D'abord aussi de responsabilité vis-à-vis de nos locaux, de nos bâtiments, perte d'énergie ou toutes ces questions-là très concrètes finalement liées à du concret de nos bâtiments, de nos églises et de notre comportement en tant que chrétien, l'Église verte. Et ça a été lancé en septembre dernier ici dans nos locaux. Ça nous invite aussi à relire la Bible à partir de cette grande question qui souffre à l'humanité au XXIe siècle, de relire la Bible. Quel défi pour nous aujourd'hui. On sent qu'il y a un grand défi. Comment refaire alliance avec la nature au lieu d'être en quelque sorte l'ennemi, devenu l'ennemi des espèces vivantes, de la création. Quel défi pour nos sociétés, pour nos modes de vie au quotidien aussi. L'enjeu est une terre vivable pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir. Nous le savons, le temps presse. Que Dieu nous soit en aide. Amen.